De minuit à 7 heures, troisième partie, chapitre 4. Gérard joue et gagne. Nelly Rose, les yeux à demi-clos, se laissait emporter au rythme insidieux, au mouvement glissant et tournoyant de la valse qui la languissait et l'étourdissait dans un doux vertige, où la griserie légère du champagne lui faisait graduellement perdre conscience d'elle-même. Où était-elle? Elle ne le savait plus trop. La musique, le brouhaha des voix, la foule, les lumières, tout cela, elle le percevait comme dans un rêve. La notion de la réalité lui échappait. Elle ne concevait pas ce que sa situation, dans cet endroit douteux, avait d'insolite. Elle ne savait plus que cet homme qui l'avait entraîné là était un inconnu et qu'elle aurait dû se méfier. Elle ne pensait pas. Elle était bien. Des sentiments, des sensations jamais éprouvées encore, éveillaient en elle un désir de vivre ardemment, de vivre paresseusement aussi, et de se laisser aller aux confuses révélations d'une sensualité encore latente, mais atavique peut-être, qui, à son insu, substituait en elle une femme, avide d'émotions de la femme, à la Nelly Rose enfant qu'elle avait jusqu'alors été. Elle se trouvait bien dans les bras de cet homme, dans son étreinte qui se resserrait, à la fois forte et douce. Et toujours à l'arrière-plan, cette sécurité menteuse. Dans cette foule, qu'ai-je à craindre? Gérard, avec sa sagacité de séducteur, l'observait. Il se rendait compte pleinement, lui, du succès de ses manœuvres. Il sentait que Nelly Rose, dans ses bras, s'alanguissait et devenait une proie presque conquise déjà. Il respirait son parfum, plus chaud, plus personnel que l'après-midi, lors de leur première danse. Il voyait sous ses yeux, sous ses lèvres, la tête charmante de la jeune fille, ses yeux mi-clos dont les longs cils recourbés sur les joues délicates jetaient une ombre molle. Sa bouche, aux lèvres pures, entr'ouverte sur des dents éclatantes. Il eût voulu s'incliner davantage sur elle et baiser ses yeux et baiser ses lèvres. Jamais il ne l'avait autant désiré. Plus que jamais, il était résolu à triompher sans délai, dès cette nuit, puisqu'il n'avait que cette nuit. Demain, tout serait découvert, elle lui serait arrachée. Elle-même s'arracherait de lui. Mais maintenant, elle était là, avec lui, à sa merci, sans personne pour la protéger contre lui. Et sans scrupule, il en profiterait. La valse prenait fin. Il ramena Nelly Rose à la table que tous deux occupaient. Comme ils y arrivaient, la jeune fille fut bombardée de boules de couleurs et environnée de serpentins jetés par un groupe de 5 hommes, des Russes, qui occupaient la table la plus voisine de la leur. Nelly Rose ne s'en formalisa pas, elle rit et sur son siège se renversa. « C'est amusant ici, » dit-elle d'une voix un peu voilée. « Mais quelle poussière !» Elle but encore quelques gorgées de champagne et tout à coup, regardant son compagnon, « Comment vous appelez-vous » Il tressaillit. « Qu'est-ce que cela voulait dire ?»« Mais oui » continua-t-elle, « puisqu'Ivan Baratov n'est pas votre vrai nom, comment vous appelez-vous » Il fut indécis, mais autant répondre. De toute façon, elle l'apprendrait demain, son vrai nom. « Gérard, » dit-il, « c'est un nom qui vous plaît ?»« Mais oui, » fit-elle avec un vague sourire. Il lui offrit une cigarette d'Orient. Elle l'accepta. Un moment, elle fuma sans parler, et puis, comme essayant de s'éveiller, « N'est-il pas très tard? Vous devez me ramener à la maison, vous savez. » « Oui, oui, tout à l'heure, Nelly Rose, c'est une telle joie pour moi de vous avoir ici, de croire pour un moment que vous êtes à moi, de pouvoir vous dire que je vous aime, Nelly Rose. »« Vous m'aimez ? » répéta-t-elle comme si elle ne comprenait pas bien. « Oui, cela vous fâche ?» Elle le regarda, et avec son sourire un peu perdu, répondit seulement « Je ne sais pas. » De nouveau, ils dansèrent, et quand ils l'eurent amenée, les Russes qui étaient voisins couvrirent encore la jeune fille de boules de couleur et de serpentins, en lui adressant cette fois des paroles prononcées en russe, confuses, mais qui firent froncer le sourcil à Gérard. La fête d'ailleurs finissait, et en finissant, devenait de plus en plus bruyante et débraillée. Nombre de gens, les gens chics surtout, étaient partis. Il ne restait que de rares groupes qui hurlaient des chants sauvages ou essayaient en vacillant de danser. « Il faut rentrer !» bégaya Nelly Rose, laquelle du reste ne voyait rien du changement opéré dans l'assistance. « Oui, nous allons rentrer !» dit Gérard. Il consulta furtivement sa montre. 4 heures du matin approchaient. Il n'avait lui-même que cette idée, partir de là avec Nelly Rose et l'entraîner vers l'escalier qui était là-bas au fond de la cour, vers l'escalier par où l'on montait à sa chambre. Il hésitait encore, observant Nelly Rose. N'aurait-elle pas un sursaut de révolte s'il l'entraînait chez lui? Le moment était-il venu? Assis tout près d'elle, il sentait contre lui la chaleur de son jeune corps souple. Il avait, derrière les épaules nues de la jeune fille, posé son bras sur le dossier de la chaise. Nelly Rose ne s'éloignait pas. Peut-être n'avait-elle pas conscience de ce rapprochement. Peut-être un vague besoin de se blottir, un vague désir d'être encore dans les bras de cet homme, où elle avait été si bien en dansant, l'empêchait de trouver la force de fuir ce léger contact, cette tendresse enveloppante, forte, autoritaire, qui la subjuguait. « Eh, les amoureux !» cria avec un fort accent une voix avinée. Gérard tourna la tête. Il ne pouvait plus feindre d'ignorer les propos des 5 Russes établis à la table voisine et les plaisanteries grossières qu'il prononçait maintenant en mauvais français afin d'être compris de Nelly Rose, qui, du reste, ne les entendait pas. Celui qui avait parlé, un colosse à l'énorme carrure, voyant le regard de Gérard se poser sur lui, reprit, provoquant, cherchant à réunir ce qu'il savait d'argot français. « Ben oui, pourquoi que tu la gardes pour toi tout seul, la poule? On est tous frères ici ce soir. Elle est bien balancée. Pourquoi qu'elle vient pas à notre table? On rigolerait. » « Je vous prie de vous taire, » jeta sèchement Gérard, dont tous les instincts combatifs se dressaient, et qui se contenait mal, mais se contenait, l'incident risquant de gêner son plan. « Me taire? Qu'est-ce que tu es pour me dire de me taire ?» hurla le colosse. « Moi, je suis Nicolas Tchébine, et tu ne me fais pas peur. Et puisqu'elle ne veut pas venir, la jolie poule, c'est moi qui viendrai. On va trinquer, nous deux. » Il se leva et s'avança vers la table de Nelly Rose et de Gérard. Éméché, mais non ivre, haut et solide comme une tour, un sourire bestial, insolent, sur sa large face à la courte barbe de moujik, il tenait à la main un grand verre plein de vodka. « Tiens, goûte-moi ça, petit pigeon » dit-il, retrouvant une expression du pays natal, à Nelly Rose, en approchant le verre des lèvres de la jeune fille. Nelly Rose, avec un cri d'effroi et de dégoût, se rejeta en arrière. Déjà, Gérard était debout. Arrachant le verre au colosse, il lui en jeta le contenu au visage, et avant que l'autre eût pu esquiver le geste de le frapper, de son poing irrésistiblement lancé, il l'atteignit au menton et l'envoya sur le plancher poudreux. Instantanément, tout ce qui restait de l'assistance fut debout et accourut pour voir la bataille. Les 4 compagnons de la brute renversée s'étaient dressés avec des cris de colère. Tous ensemble se ruèrent sur Gérard. Gérard fit 2 pas au-devant d'eux afin de protéger Nelly Rose et d'avoir ses mouvements libres. Un sourire durcissait son visage. Une flamme impitoyable flambait dans ses yeux. C'était le Gérard de l'action et de la lutte. Athlétique, en 4 coups de poing foudroyants, il se dégagea de l'attaque. Fit reculer, chancelant, ses adversaires étonnés. Mais le colosse se relevait. Mais les autres s'emparaient de bouteilles à champagne pour s'en faire une arme. Ils allaient se ruer de nouveau, excités par les cris des derniers assistants demeurés là, et pour qui le spectacle d'un homme élégant, assailli, et, ils l'espéraient, assommé par Saint-Brut, constituait une rare attraction, une fin de fête vraiment amusante. Mais tous reculèrent et plusieurs s'enfuirent. Gérard, froid, déterminé, avait tiré de sa poche un Browning et les en menaçait. Il profita de leur stupeur, il profita aussi de l'arrivée de Yegor, le patron de la pension, qui, prévenu de la bagarre, accourait et se jetait entre lui et les assaillants. En une seconde, Gérard se retournant vers Nelly Rose, qui était debout, blanche de peur, la couvrit de son manteau rouge resté sur la chaise, l'enleva dans ses bras, comme il eût enlevé un enfant, et l'emporta. Il avait repris son revolver dans une main. Nul n'osa le poursuivre. Sans avoir bien saisi les événements, Nelly Rose se laissait faire, éperdue d'épouvante, se confiant à cet homme plus fort que tous les hommes, à cet homme qui la protégeait et la sauvait des brutes menaçantes. Gérard gagna rapidement la cour obscure et la traversa. Dans l'angle était le petit escalier qui conduisait à sa chambre. Il le gravit avec son fardeau qu'il serrait contre sa poitrine. Trop habitué au péril pour avoir été un seul instant ému pendant la bataille, il n'éprouvait d'autre sentiment qu'une joie ardente. Il avait réussi. L'incident, loin de le desservir, lui avait livré Nelly Rose. Dans sa chambre, il la déposa sur un divan, fit de la lumière et tira les doubles rideaux. Puis il revint vers la jeune fille. Nelly Rose semblait à demi inconsciente. Pourtant, elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Sur la cheminée, elle entrevit confusément, dans un vase, une branche de lilas. « C'est mon lilas ? » demanda-t-elle d'une voix faible à Gérard. Il fit oui de la tête. Au bord du divan sur lequel elle était à demi étendue, il avait posé le genou. Elle voyait au-dessus d'elle, à demi penchée, son visage. Elle voyait ses yeux, qui, sur elle, faisaient peser un regard immobile, avide, un regard qui lui enlevait le peu de force qu'elle avait encore. Avait-elle peur ? Peut-être un peu, mais bien confusément. Et bien inconsciemment. Elle ne se rendait pas compte de la situation, dans sa lassitude. Oh, qu'elle était lasse ! L'épouvante de tout à l'heure, les émotions de toute la journée, la fatigue, l'avaient brisée. L'étourdissement du champagne voltigeait encore, comme un vertige léger dans son cerveau. Tout cela, et surtout ce regard sur elle, doux et fort, l'ensevelissait dans une sorte d'ivresse endormeuse où toutes ses forces défaillaient, sans souffrance comme sans déplaisir. Elle eut pourtant, parlant comme en un songe, un balbutiement. « Ne m'embrassez pas. Il ne faut pas m'embrasser. Mon Dieu, j'ai eu tort. Maman m'avait bien dit. » Elle semblait une enfant qui se plaint. Elle paraissait petite, faible, mais si désirable dans son abandon. Elle rouvrit une seconde les yeux, vit l'homme toujours penché sur elle, vit son regard. « Je vous en prie, » gémit-elle plus bas encore. « Je vous en supplie, je veux partir. » Et dans un souffle, « Je veux partir, aidez-moi à partir. » Elle retomba, plus abandonnée, sur les coussins du divan, les yeux clos, endormie, pacifiée. Il se pencha lentement vers sa bouche entr'ouverte. Chapitre 5. Le jeune homme brun. Valnay, affolé, malgré l'aide à lui apportée par Thureau, eut quelque peine à tirer Madame d'Estol de l'évanouissement où elle était plongée. Avec ardeur, il lui frappa les mains, lui fit respirer de l'éther, trouvé sur la toilette de Baratoff, et, imbibant d'eau de Cologne une serviette, il lui en frotta les tempes, le front et même toute la figure. Le résultat fut de rendre au visage de Madame d'Estol son aspect naturel et de transporter le maquillage multicolore dont ce visage était chargé sur la serviette, qui devint ainsi pareille à la plus capricieusement bigarrée des palettes. Le résultat fut aussi, enfin, de rendre ses esprits à Madame d'Estol. Elle ouvrit des yeux encore hagards et se remonta légèrement, aidée de ses soigneurs, dans le fauteuil où il l'avait déposée. « Là, ça va mieux !»« Là, ça va mieux !» disait le bon Valnay. Cependant, le commissaire de police continuait son enquête. Il interrogeait, après le garçon d'étage, le portier qui avait vu entrer le grand jeune homme brun et qui déclarait que celui-ci était déjà venu dans la journée. Et le valet de chambre qui avait entendu la dispute et qui avait dit à son collègue, Manuel, « Ça chauffe là-dedans !» Enfin, le maître d'hôtel qui, au dîner, avait servi Baratoff et l'inconnu. Ce dernier employé du nouveau palace déclara que les deux hommes, pendant les moments de leur repas où il était présent, n'avaient échangé que des propos insignifiants. Ils semblaient en bons termes, et même sur un pied de familiarité, puisqu'ils se tutoyaient et s'appelaient par leur nom. Baratoff, Gérard. « Vous ne pouviez pas dire ça tout de suite ?» s'écria le commissaire. « Il s'appelle Gérard ? C'est un renseignement !» Cet estimable magistrat avait de l'ambition. Il eût voulu, dans cette affaire qui apparaissait comme sensationnelle, obtenir un résultat décisif avant l'arrivée du juge d'instruction et des représentants de la police judiciaire. Mais, à la réflexion, il dut reconnaître que le renseignement était mince. Gérard, un simple prénom, et qui n'était peut-être même pas le vrai prénom de l'inconnu. Que cet inconnu fût l'assassin, le commissaire n'en doutait pas. Et chaque détail nouveau qu'il relevait renforçait sa conviction. La nature de l'assassinat ? Querelle soudaine ? Ou crime prémédité ? Le mobile ? Vengeance ? Ou rivalité ? Ou vol ? Les valises du Russe, en effet, gisaient dans un coin de la chambre à coucher, à demi ouverte. Pourtant, elles n'avaient pas été vidées. Alors, était-ce un meurtre de rencontre ? Un meurtre passionnel ? Un meurtre intéressé ? Ou tout à la fois ? Énigme. Et puis, autre énigme, pour quelle raison cette dame se trouvait-elle mêlée à l'affaire ? Cette dame qui venait de s'évanouir et qui avait prononcé avec angoisse un nom qu'il avait malheureusement mal entendu. Le commissaire se rapprocha de Thureau qui, sans aucunement y participer, l'avait laissé mener seule son enquête. Bizarre affaire, monsieur, et qui doit présenter des dessous assez particuliers. Je crois qu'il y a eu vol. De toute façon, certains renseignements pourraient être fournis. Vous croyez ? Thureau fixait sur lui un regard terne et pourtant significatif. Eh bien, le parquet qui sera ici dès le matin les obtiendra, ces renseignements. Je préviendrai d'ailleurs à la première heure le préfet. Transmettez sans retard votre rapport sur ce que vous avez constaté. Le commissaire de police avait du tact, et il avait aussi, on le sait, de l'ambition. Il n'insista pas. Il savait l'influence de Thureau sur le préfet, dont Thureau était le collaborateur le plus direct. Il comprit que la discrétion à l'égard de la dame inconnue s'imposait. « Faites d'ailleurs tout le possible pour identifier ce Gérard, » continua Thureau. « Si vous pouviez avant la fin de la nuit le faire arrêter, ce serait un coup de maître. » Il rejoignit Madame d'Estol, qui, dans son fauteuil, restait accablée, et lui dit « Chère madame, il est 4 heures du matin. Vous devez être brisée. Il faut absolument rentrer chez vous tranquillement, avec toute confiance dans notre diligence. L'affaire est entre les mains de la police, et dans quelques heures, certainement, tout sera réglé. Comptez sur nous, chère madame. Moi, je me repose quelques moments. » Madame d'Estol ne bougea pas. Elle semblait avoir à peine entendu les paroles de Thureau. Pourtant, elle murmura « Oui, vous avez raison. Je viens. » Thureau se retourna vers son ami Valnet, lui adressa quelques recommandations et se retira dans la pièce voisine. Valnet alors se rapprocha de Madame d'Estol et, se penchant, « Alors, chère amie, vous êtes prête? Nous partons ?» Madame d'Estol était toujours immobile, mais elle semblait se réveiller et retrouver toute sa conscience. Elle dit d'une voix basse et résolue « Oui, oui, nous allons partir. Mais s'imagine-t-on que je vais rentrer et que je vais attendre des heures sans agir, tandis que Nelly Rose est avec ce bandit, cet assassin ?» Très calme à présent, pleine d'une inflexible résolution, elle n'était plus l'habituelle femme coquette, frivole et brouillonne, qui prenait la vie comme une suite de parades mondaines et de distractions hétéroclites. Valnet la regardait. Dépeignée, défardée, les traits tirés, elle avait vieilli de 20 ans. Mais elle n'en avait cure, et il ne pouvait s'empêcher de la trouver admirable et touchante, ainsi transfigurée par l'amour maternel, qui lui faisait oublier toute autre chose au monde. Sourdement, sans geste, elle prononça « Écoutez-moi, Valnet, sur la table de ce misérable Baratov, car c'était un misérable et il est responsable de tout ce qui arrive à ma fille, sur la petite table qui est là-bas au fond, à droite, vous m'écoutez bien, j'ai vu tout à l'heure un carnet de notes, d'adresses sans doute, peut-être contient-il des renseignements sur l'autre canaille, une indication quelconque. » Valnet, étonné, protesta. « Oh, voyons, quoi! Les gens de la police n'auraient pas eu l'idée de vérifier? Allez, feuilletez-le, ils n'y ont pas pensé encore. Allez le feuilleter, mais sans en avoir l'air. » Valnet obéit. Avec un regard oblique vers le commissaire de police qui, à la grande table, écrivait son rapport, il fit quelques pas, tournant autour de la pièce comme pour se dégourdir les jambes, l'allure maladroite d'ailleurs, et guindée, avec une affectation d'indifférence qui eût donné l'éveil à qui l'eût observé. Il s'approcha de la petite table, vit le carnet, et, sans le prendre, sans même baisser la tête, du bout du doigt, il le feuilleta, parcourant des yeux les premières pages. Soudain, il retint un mouvement de surprise, étouffa une exclamation et, sans attendre, revint tout droit vers Madame d'Estol et chuchota. « Ça y est, j'ai trouvé. Oui, une indication datée de quelques jours. De Londres, télégraphié à Gérard, confirmation de mon arrivée pour le 8 mai. Adresse, pension russe à Auteuil. » « C'est cela, c'est cela !» balbutia Madame d'Estol enfiévrée. Et c'est là, dans cette pension russe, que ce Gérard a dû emmener ma fille. « Venez » dit-elle brièvement à Valnet. « Mais où allons-nous ? Sauvez Nelly Rose !» Sans parler au commissaire qui continuait à écrire, elle sortit. Valnet suivit, toujours obéissant. Dans l'escalier, pourtant, il objecta. « Mais pourquoi n'avoir pas prévenu Thureau ou le commissaire ? Ne croyez-vous pas ?» trancha-t-elle péremptoire, tout en consultant l'annuaire du portier. « Ils n'ont rien su découvrir. Moi, j'ai su. Et je saurai retrouver ma fille. Ah, tenez, voilà l'adresse. Allons, vite là-bas. » « Je vous suis, cher ami, » dit Valnet, qui se reprenait un peu à l'espoir malgré sa fatigue. Et malgré l'amertume croissante qu'il éprouvait à se dire que, depuis un aussi long temps, Nelly Rose se trouvait au pouvoir d'un bandit inconnu. Il était 4h20 quand l'auto de Valnay s'arrêta devant la pension russe. La maison était obscure. Aucune voiture ne se trouvait devant la porte, qui pourtant n'était pas fermée, mais seulement poussée. Madame d'Estol, suivie toujours de Valnay, délibérément entra la première. Tout paraissait désert. Dans le bureau à demi éclairé, personne. Mais là-bas, semblant provenir d'une cour mal éclairée, une musique s'entendit soudain. Ils s'avancèrent, virent le hall, décor presque crapuleux maintenant d'une fin de fête qui a tourné à la piètre orgie, avec des flaques de vin par terre où baignaient les boules de couleur, les serpentins pendant au mur ou amoncelés dans les coins, et les quelques groupes de buveurs, mornes, à demi-ivres auprès de leurs verres, et dont l'un, colosse à l'aspect brutal, essayait de tirer des accents harmonieux d'un accordéon. C'est vers cet individu, assis au milieu de quatre autres, que Madame d'Estol s'avança pour se renseigner. « Est-ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure ici un jeune homme, grand, élégant, très brun ?» lui demanda-t-elle. Pourquoi s'était-elle d'abord adressée à cet homme? Elle n'aurait su le dire elle-même. Elle avait la conviction que Gérard avait amené là Nelly Rose, et elle était décidée à interroger tous ceux qu'elle rencontrerait dans la maison. L'homme, à la question, leva un visage que l'abrutissement d'une longue demi-ivresse couvrait d'un voile. Il voulut d'abord répondre une grossièreté. Mais l'autorité qui était dans la voix et dans le regard de Madame d'Estol l'en empêcha. « Un grand brun ? Élégant ? Oui, il était là tout à l'heure, » dit-il comme malgré lui. « Seul ? Non, il y avait une femme avec lui. »«
Une jeune femme ?»
précisa Madame d'Estol palpitante.
« Oui,
et même très jeune. » intervint un des autres Russes. « Et bien jolie. Elle avait une robe blanche qui montrait ses bras et ses épaules, et puis un grand manteau rouge. »«
C'est bien elle !»
murmura Madame d'Estol, dont l'émotion étranglait la voix.
« Ils étaient là !»
continuait le second Russe en désignant la table voisine qu'avaient occupée Nelly Rose et Gérard. « Ils sont arrivés vers 2 heures. » Ils ont dansé ensemble. Ils se serraient l'un contre l'autre, comme des amoureux.
« Et où sont-ils ?»
L'homme fit un geste d'ignorance. Il ne se souciait pas de raconter la rixe peu glorieuse où, à 5, ils avaient été tenus en respect par un seul homme.
« Ils sont partis, » dit-il seulement.
« La jeune dame semblait malade, fatiguée. Le grand brun l'a emportée dans ses bras. »
Et puis ?
Et puis, nous ne savons pas.
Si, si, vous savez, il faut savoir. Il faut vous rappeler,
insista Madame d'Estol, haletante.
Rappelez-vous, je le veux.
Un des Russes, maigre, à l'air avisé, moins ivre que les quatre autres, et qui n'avait jusqu'alors rien dit, se rapprocha. Pourquoi ne pas tirer parti de la situation ? Cette dame et son compagnon semblaient bien émus. Sûrement, c'étaient des gens riches. Ils paieraient bien un renseignement. Et puis, les renseigner, ce serait aussi se venger de l'homme, qui tout à l'heure, seul contre 5...
Eh bien, voilà, dit-il à Madame d'Estol. On parlerait bien, mais ça peut nous faire des ennuis. Nous sommes de pauvres gens.
Donnez-lui de l'argent,
dit Madame d'Estol à Valnay. Valnay sortit 500 francs que le Russe empocha.
« Eh bien, voilà, » reprit-il. « Je les ai suivis de loin. Je les ai guettés. Alors, en portant toujours la jeune dame, ce monsieur a disparu là-bas, à l'angle de la cour. C'est là que donne l'escalier qui mène à sa chambre. Je l'ai vu tantôt y entrer. »
Madame d'Estol chancela.
« Et il y serait maintenant, avec cette dame ?»«
Pas de doute, » dit le Russe.
Madame d'Estol avait déjà surmonté sa défaillance d'un moment. « Conduisez-moi, » ordonna-t-elle.
« Ça y est, on va avoir notre revanche contre le type !»
souffla le russe à ses compagnons. Il prit les devants vers la cour sombre. Madame d'Estol était sur ses talons. Soudain, Valnet, qui marchait près d'elle, entendit le bruit d'un déclic. Il regarda sa compagne.
« Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que cela ? »
demanda-t-il épouvanté. Madame d'Estol tenait à la main un petit Browning. Elle ne répondit pas à la question de Valnet. Son visage était contracté par une expression de résolution farouche. Valnet vit le drame imminent. Folle de colère et de douleur, la mère était prête à tout pour venger sa fille, châtier le coupable, prête à tirer, prête à tuer. Et les Russes suivaient, à moitié ivres, surexcités, avides de vengeance, résolus à enfoncer la porte si leur ennemi refusait d'ouvrir. Madame d'Estol, qui se hâtait, silencieuse, implacable, atteignit le bas de l'escalier à demi éclairé. « Où allez-vous, madame ? » lui demanda un homme qui parut tout à coup devant elle, débouchant d'un couloir qui venait de l'autre partie de la maison. C'était Yegor, le patron de la pension. Il regardait le groupe et répéta, s'adressant à madame d'Estol et à Valnet. « Où allez-vous, madame et monsieur ?» Madame d'Estol, sous son manteau, dissimula son arme. « Nous allons chez un jeune homme brun qui se nomme Gérard et qui vient de rentrer dans sa chambre avec une jeune dame. Laissez-nous passer. » Le patron eut une imperceptible hésitation. Il avait vu le Browning dans la main de madame d'Estol. La présence auprès d'elle des saints russes battus tout à l'heure par Gérard était significative. D'autre part, il soupçonnait Gérard de s'être embarqué dans une histoire compromettante. Il le savait capable de bien des choses pour assouvir ses désirs. Cette jeune fille emportée, cela avait bien l'air d'un enlèvement, et en ce moment même, elle était là-haut avec lui. Un drame était imminent. Yegor le comprit. Il ne voulait pas d'une histoire sanglante et scandaleuse dans sa maison, que la police déjà surveillait. Il voulait surtout protéger l'homme, qui autrefois lui avait sauvé la vie. Barrant toujours le passage à madame d'Estol, et sans lui répondre, il dit aux cinq Russes « Et vous autres, qu'est-ce que vous faites là ?»«
Nous guidons, madame, » dit le maigre.
« Ah, vraiment ? Eh bien, c'est pas la peine, et vous pouvez filer. » « Madame, » continua Yegor en s'adressant à madame d'Estol, « il est inutile que vous montiez. Monsieur Gérard, qui est un de mes clients occasionnels, a bien sa chambre ici, mais il n'y est pas. Lui et la jeune dame n'y sont restés que 5 minutes. Je les ai rencontrés comme ils ressortaient. Ils ont quitté la maison, et je les ai vus monter dans l'auto qui les avait amenés. « Mon Dieu !» gémit madame d'Estol, qui pas une seconde ne douta de la parole du patron. « Allons, vous autres !» reprit celui-ci en s'adressant aux 5 Russes. « Je vous ai déjà dit de filer, vous n'avez rien à faire ici. » Il avait parlé avec autorité. Ils avaient tous besoin de lui et ne voulaient pas le mécontenter. Ils s'éloignèrent en grommelant vers le hall où les lumières commençaient à s'éteindre. Madame d'Estol resta un moment silencieuse. Sa surexcitation était tombée d'un coup. La détresse et le découragement l'accablaient de nouveau. « Que faire ? » murmura-t-elle. « Nelly Rose, ma petite, où est-elle ? Mon Dieu, que faire ?»«
Il n'y a qu'à nous en aller, » dit Valnet. Il était accablé, lui aussi, à bout de force, mais il était aussi confusément soulagé de quitter cet hôtel, où, un moment, il avait redouté d'être mêlé à une bataille. Il prit le bras de madame d'Estol et la ramena vers leur auto. Le patron les suivit jusqu'à la porte. « Rentrons à la maison, elle y sera peut-être, » dit madame d'Estol, ressaisie d'un léger espoir. L'aube naissait, une aube nuageuse, aigre, presque glaciale, d'un début de mai. à sa clarté blanche, tous deux, brisés par la fatigue et par l'insomnie, apparaissaient défaits et blêmes.
Nous aurions peut-être mieux fait de nous faire accompagner par la police, dit Valnay dans l'auto après un moment de silence.
Pourquoi cela? La police n'aurait rien trouvé de plus que nous, puisque ce misérable a emmené ailleurs ma pauvre enfant.
Ah, Valnay, mon ami, quelles angoisses! Que n'avez-vous épousé plutôt Nelly Rose? Cette horrible histoire nous aurait été épargnée.
Ma pauvre petite, avec cet homme! Ah, je veux espérer encore.
Réfléchissons. De minuit à 2 heures, ils sont chez Nelly Rose.
Là, rien de grave.
Ils viennent ensuite à cette fête. Une foule, rien encore. Alors, si à présent nous retrouvons Nelly Rose à la maison, vous voyez, Valnay?
Oui, mais si nous ne la retrouvons pas?
Et tout de même, elle aura passé la moitié de la nuit seule avec cet homme, contre qui elle se serrait, comme contre un amoureux,
dit lamentablement Valnay, qui, malgré son amour pour la jeune fille, ou plutôt à cause de cet amour, commençait à trouver que l'indépendance et l'imprudence de Nelly Rose avaient des suites bien fâcheuses pour un futur époux.
Écoutez, reprit Madame d'Estol, quand nous allons la retrouver, nous ne lui parlerons de rien. Elle apprendra assez tôt. C'est convenu, n'est-ce pas?
Oui, dit Valnay morne.
Place du Trocadéro, une horrible déception les attendait. Nelly Rose n'était pas rentrée. Sa chambre, son boudoir, étaient vides.
C'est affreux, gémit Madame d'Estol, qui à cette nouvelle déception, dans une détente nerveuse, éclata en sanglots.
C'est affreux,
gémit en écho Valnay en se laissant tomber sur le divan. Ils attendirent silencieux. 5 heures sonnèrent. 6 heures. C'était le grand jour depuis longtemps. Madame d'Estol ni Valnay n'osaient plus se regarder. Leur certitude mutuelle était totale et atroce.
7 heures.
Un bruit de clé dans la porte d'entrée.
« C'est elle !»
cria Madame d'Estol en se dressant de son fauteuil.
Oui, c'était Nelly Rose.
Pâle, marchant d'un pas automatique, elle entra dans le boudoir.
Madame d'Estol s'était précipitée au-devant de sa fille. Elle voulait la questionner, mais comme elle l'avait dit à Valnay, ne voulait rien lui révéler.
Emportée par son émoi, elle ne trouva que ces mots.
« C'est un assassin !»«
Qui ? Qu'est-ce que tu dis ?»
interrogea Nelly Rose d'une voix sourde.
« Lui, l'homme qui est venu, qui t'a emmené, avec qui tu as passé la nuit, ce Gérard, c'est un assassin, un voleur, il a tué Baratov pour le voler. »
« Mais puisque c'est lui, Baratov, » balbutia Nelly Rose.
« Non, il a pris le nom de Baratov et il a tué le vrai Baratov. Il l'a égorgé au nouveau palace. Il l'a égorgé avant de venir ici, à minuit. J'ai vu le cadavre. C'est un assassin. La police le traque. »
Il y eut un long silence. Silence d'épouvante, silence d'horreur. Nelly Rose, tremblante, restait muette. Puis, avec l'inhumaine raideur des mouvements d'un automate, elle prit par le bras sa mère et, toujours sans un mot, la conduisit hors de son boudoir jusqu'à la porte du corridor. Elle fit de même à l'égard de Valnay. Elle referma sur eux à double tour cette porte. Elle revint dans son boudoir, toujours automatique, se regarda machinalement dans sa psyché, s'y vit spectrale, et soudain, se jetant sur son divan, éclata en sanglots.